Alors, l'embargo, pardon, la cécité satanique, c'est quoi? C'est l'incapacité de voir le chemin. C'est l'aveuglement spirituel. Alléluia. La cécité spirituelle, bien-aimée, c'est dans un deuxième sens, c'est dans un deuxième temps, l'incapacité de discerner le bon du vrai. L'incapacité de discerner la bonne direction, la bonne voie. La cécité spirituelle, c'est l'incapacité de faire le bon choix dans la vie. Alléluia. Il y a des gens qui souffrent des cécités spirituelles et à cause de cela, ils n'arrivent pas à faire les bons choix, à choisir la bonne orientation, à s'établir dans le bon endroit. Et c'est un problème dans la vie de beaucoup de gens. Alléluia. Et la cécité spirituelle est une autre forme d'embargo. Rappelez-vous que nous avons dit l'embargo, c'est une limitation, c'est un blocage. L'embargo, c'est une interdiction. L'embargo, bien-aimé, c'est un ensemble de mécanismes qui empêchent une personne, une nation, un village, une famille d'atteindre le but qui lui a été fixé par le Seigneur. Alléluia. Chaque fois qu'un homme n'évolue pas normalement, il y a une forme d'embargo qui opère sur sa vie. Alléluia. Et donc, quand je parle ici de la cécité spirituelle, je continue toujours dans l'embargo. Parce que quand tu es aveugle, bien-aimé, tu dépends de ceux qui sont autour de toi. Tu dépends d'eux en termes de nourriture, en termes de vêtements, en termes même de lieu d'habitation. Rappelez-vous de l'histoire de Bartimée. Bartimée était assis. La Bible dit que chaque jour, on le déposait au même endroit. Alléluia. On le déposait au même endroit. Il n'avait pas le choix de décider ce qu'il voulait. Il dépendait de ceux qui le mettaient à cet endroit. Et il y en a comme ça aujourd'hui dans la vie qui dépendent de ce que les gens disent d'eux, qui dépendent de là où les gens veulent les mettre, qui dépendent de ce qu'on pense d'eux, qui dépendent des initiatives qui sont positionnées autour d'eux. Parfois, c'est contre leur avis, mais ils n'ont pas de choix que de suivre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et c'est très important. Allons-y dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6, le verset 22 à 23. Matthieu 6, 22 à 23. Il y a ce formidable texte que Jésus va enseigner. Jésus enseigne sur ça. Matthieu 6, 22 à 23. Alors, si tu es prêt, lève-toi et on lit la parole du Seigneur. Il est écrit ceci: l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Alléluia. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Regardez, il continue en disant, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera... Tout, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Alléluia. Asseyons-nous bien aimés. Alors, si ton œil n'est pas en bon état, autrement dit, tu es dans les ténèbres, c'est pas ça? Tu es dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres. Aujourd'hui, nous parlons de cécité. La cécité, c'est une forme de voile satanique qui empêche un homme de voir son devant, de voir son avenir, de voir son chemin, de voir sa direction, de voir son orientation. Vous allez voir physiquement ceux qui ont des problèmes des yeux, quand ils vont à l'hôpital, en général, on discerne, l'hôpital discerne toujours une forme d'enveloppe qui est au-dessus de son œil. Et généralement, ils appellent ça cataracte. Ils donnent des noms à tout cela, mais c'est une forme de voile. Pour d'autres, ils procèdent seulement d'une opération. On enlève le voile et on permet à l'œil de mieux voir. Alléluia. Pour d'autres, c'est compliqué. Le voile s'est intensifié et du coup, la personne sombre dans les ténèbres. Alors, si physiquement, la nature physique, la santé physique peut être affectée au point où un voile physique se reproduit au-dessus de notre pupille. Alléluia. Imaginez sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, ça devient un blocage, ça devient un embargo, ça devient une incapacité à évoluer, ça devient un handicap à bouger. Alléluia. Alors, vous allez vous rendre compte que parmi les handicaps auquel le Seigneur va être le plus confronté dans les Écritures, ce sera les aveugles. Ce sera les aveugles. C'est l'handicap où le Seigneur a le plus intervenu, où le Seigneur a le plus étendu la main. Après ça, il y avait l'handicap des pieds. Alléluia. Comme l'homme à la piscine de Bethesda. Il était paralysé des deux jambes. Parce que ces deux organes sont des organes de mobilité. Sans tes yeux, tu ne peux pas savoir où aller. Sans tes yeux, tu ne peux pas savoir quel choix faire dans ta vie. Alléluia. Alors, si tu te retrouves dans une chambre qui n'est pas éclairée et on met la nourriture devant toi et c'est une bonne obscurité, on met le poison et on met la bonne nourriture, tu n'auras pas la possibilité de discerner. Alléluia. Tout ce que tu auras à faire, c'est plonger la main et ramener dans ta bouche et sombrer dans la mort. Alors, tu as besoin de tes yeux. Tu as besoin de tes yeux. Alléluia. Alors, remarquez ici, notre Seigneur dit clairement quelque chose de fort. Il dit, l'œil est la lampe du corps. Ton corps est un organisme. Ton corps est une maison. Alléluia. Regardez cette bâtisse. On ne peut pas rentrer dans cette bâtisse facilement s'il n'y a pas la lumière. Alléluia. On ne peut pas intervenir dans ta vie. Rien ne peut arriver dans ta vie de bon s'il n'y a pas la lumière. Alléluia. C'est quoi le Seigneur va dire quelque chose d'intéressant et de très fort. Il va dire, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Alors, quand on dit de quelqu'un qu'il est une lumière, cela suppose qu'il est autour de lui, il y a de l'obscurité. Cela suppose qu'il autour de lui, il y a de l'obscurité. La lumière ne peut pas être évidente s'il n'y a pas d'obscurité. La lumière, lui, dans les ténèbres. Est-ce que quelqu'un avec moi? La lumière, lui, dans les ténèbres. C'est ce que Jean dit. Amen. Jean dit dans Jean chapitre 1, il parle de la lumière qui luit dans les ténèbres. C'est pourquoi il y a deux types de ténèbres, bien-aimés. Il y a les ténèbres qui viennent de l'ennemi, il y a les ténèbres qui viennent de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen. Alors, les ténèbres qui viennent de Dieu produisent en général la tristesse qui conduit à la repentance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Rappelez-vous de l'apôtre Paul qui va sombrer dans les ténèbres lorsqu'il va aller à Damas. Allons-y, vous ne croyez pas. Allons-y, lisons ensemble. C'est votre Bible, c'est notre Bible. Nous la lisons. Vous la lisez comment? Lisons-la ensemble. C'est ta Bible, bien-aimé. C'est ta Bible. C'est acte combien? Acte combien? Acte combien, Paul? Il y a les étudiants ici. Acte combien? Saul va à Tarse, à Damas, pour tuer les chrétiens. Alléluia. Saul de Tarse. Ah. Alléluia. Est-ce qu'on y est? Acte chapitre 9. Allons au chapitre 9. Alléluia. Au chapitre 9. Acte chapitre 9. Alléluia. La Bible dit, cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Regardez, la lumière là, c'est le Seigneur. Le Seigneur resplendit. Voici la lumière qui resplendit sur lui. Regardez ce que la lumière va produire dans sa vie. Alléluia. Ensuite, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dû de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira, on te dira. » Vous voyez, quand tu es aveugle, quand tu es dans une cécité, on te dit ce que tu dois faire. Est-ce que quelqu'un avec moi? On te dit là où tu dois aller, on te dit là où tu dois dormir, on te dit ce que tu dois penser. Alléluia. Je prie pour quelqu'un ici. Que Dieu te donne l'autonomie sur ta manière de voir. Que Dieu te donne l'autonomie sur ta manière de comprendre, sur ta manière de saisir. Au nom de Jésus. Alléluia. Regardez. On te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Alléluia. Maintenant, sautons. Allons-y plus loin. Allons-y plus loin. Écoutez le Seigneur lui-même maintenant qui visite un certain Ananias. Alléluia. Qui visite un certain Ananias et il lui parle. Il lui parle de ce Saul-là qu'il a capturé par sa lumière. Alléluia. Qu'il a capturé par sa lumière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Alors, il dit, le Seigneur lui dit, verset 11, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Alléluia. Maintenant, voilà le plan de Dieu. Dieu veut délivrer cet homme. Maintenant, évoluons un peu plus loin. Évoluons un peu plus loin lorsque Ananias maintenant va à la rencontre de Paul. Alléluia. Il va à la rencontre de Saul. À partir de verset 18, alléluia. À partir de verset 18, au même instant, il tomba de ses écailles comme de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et il fut baptisé. Alléluia. Ananias va aller imposer les mains à Paul, à Saul. Et il va dire, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'envoyer pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Alléluia. Voici un homme qui a perdu la vue. Ça veut dire qu'il a sombré dans les ténèbres. Alléluia. Par la lumière de Dieu, il a sombré dans les ténèbres. Vous voyez qu'il y a deux types de ténèbres. Il y a les ténèbres qui viennent de l'ennemi et il y a les ténèbres qui viennent du Seigneur. Les ténèbres qui viennent du Seigneur produisent en général la repentance. La repentance. La repentance. Alléluia. Alors, revenons en arrière. Nous parlons de la cécité spirituelle. Beaucoup de personnes vivent ce phénomène de cécité spirituelle où dans tes révélations, tu ne vois rien. Dans tes révélations, tu ne comprends rien. Dans tes révélations, tu ne saisis rien. Alléluia. Tu ne saisis rien. Voyez? Alors, il y a plusieurs types de cécité. La cécité peut affecter, la cécité peut affecter l'esprit d'un homme. La cécité peut affecter la pensée d'un homme. La cécité peut affecter l'intelligence d'un homme. Alléluia. L'intelligence d'un homme. La Bible parle de l'intelligence qui est obscurcie. Amen. L'intelligence de certaines personnes qui est obscurcie. Quand ton intelligence est obscurcie, même lorsque tu vois la mort, tu crois que tu vas pouvoir t'en sortir. Alléluia. C'est des personnes que vous allez les avertir d'un danger, va dire non, je maîtrise, je gère. Je maîtrise, je connais là où je suis en train d'aller. Alors qu'ils ne maîtrisent rien du tout. Alléluia. Alors qu'ils ne maîtrisent rien du tout. C'est-à-dire qu'il a un esprit d'entêtement. D'entêtement dans les décisions de sa vie. Dans les choix de sa vie. Il a toujours l'impression qu'il maîtrise toutes les circonstances alors qu'il ne maîtrise rien à la fin. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Dieu crée l'homme, il lui donne son esprit. L'esprit de Dieu dans l'homme te donne la capacité de savoir où tu vas. Te donne la capacité de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Alors quand cet esprit est voilé, tu ne peux plus aller nulle part. Tu ne peux plus aller nulle part. Rappelez-vous de ce vieux prophète dans le livre de 1 Roi chapitre 13. Alléluia. Qui prophétisait hier, mais qui a perdu la capacité de voir, de comprendre les choses de Dieu. Au point où il a usé des mensonges pour tromper le jeune prophète. Alléluia. Mais bien aimé, l'embargo ici ne se restreint pas simplement à ce que je vous ai dit la dernière fois. L'embargo également peut être dans notre capacité à voir les choses, à anticiper sur les événements, à anticiper sur le danger, à anticiper sur les opportunités. Quand tu ne sais pas identifier ton opportunité, tu passes à côté de beaucoup de choses. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous avons donc besoin de saisir, de nous lever contre toutes sortes d'embargues, toutes sortes de cécité spirituelle en nous, toute forme de cécité spirituelle qui affecte notre progression. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous parle dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 25. La Bible parle les secrets de son cœur. Voilà. 2 Corinthiens 4. Prenons 2 Corinthiens 4. Voilà, c'est ça. Il dit, si notre évangile est encore voilé, à partir du verset 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a un évangile. L'évangile a un voile pour certaines personnes. L'évangile est caché pour certaines personnes. L'évangile n'est pas à la portée de la vue de certaines personnes. C'est voilé. C'est voilé pour ceux qui périssent. Écoutez la suite. Il dit pour les incrédules. Quel incrédule? Dont le Dieu de ce siècle a fait quoi? A aveuglé. A aveuglé quoi? L'intelligence. L'intelligence. C'est pourquoi tu vas voir des hommes intelligents là-bas dehors, mais ils ne comprennent rien aux choses de Dieu. Ils sont aveuglés. La Bible dit, Jésus dit que c'est pour que il parlait, Jésus dit que quoi? Qu'il parlait aux hommes par parabole. Amen. Afin que, ayant des yeux, qu'ils ne voient rien. Qu'ils aient des oreilles, qu'ils n'entendent rien et qu'ils ne comprennent rien. Alléluia. Quel est ce langage qui te rend encore aveugle? C'est l'évangile. L'évangile rend certaines personnes aveugles parce qu'ils interprètent ça avec leur intelligence. Ils interprètent ça avec l'intelligence, vous voyez? Il dit, pour les incrédules, l'incrédule c'est qui? C'est celui qui ne croit pas, qui ne croit pas. C'est celui qui ne croit pas, qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas aux choses de Dieu, qui ne croit pas à la parole de Dieu. Il dit, pour celui-là, son intelligence est aveuglée. Alors, tu peux avoir quelqu'un qui récite la parole de Dieu de la Genèse à Apocalypse. Mais il est aveuglé. Jésus, un jour, on va venir lui poser une question d'une femme qui avait épousé 7 frères qui étaient morts. Amen. Et les pharisiens vont lui dire, écoute Seigneur, alors, lorsqu'il y aura la résurrection, lequel des maris cette femme va avoir, va garder? Le premier ou le dernier des 7, lequel des frères? Et Jésus va leur dire que non, vous êtes dans l'erreur. Amen. L'esprit d'erreur, bien-aimé, est une forme d'aveuglement, est une forme de cécité. Il y a des gens qui sont dans l'erreur de l'interprétation, de la compréhension des choses de Dieu. Alors tu vas beau casser ta tête pour leur expliquer, tu ne comprendras rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent être aveuglés, peuvent attraper la cécité de plusieurs manières. Bien-aimés, il y a certaines doctrines aujourd'hui qui peuvent te rendre aveugle. Aveugle. Il y a certaines doctrines de la parole qui peuvent te rendre aveugle parce que l'interprétation est complexe et à la fois simple. Pour celui qui a un cœur simple. Alléluia. 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 voyez, aujourd'hui, on a l'impression que plus tu es âgé, on s'attend à ce que plus tu es âgé dans les Écritures, plus tu comprends les Écritures. Mais j'ai toujours dit que Jésus nous a changé les données. Il a changé les données le jour où, à 12 ans, il a expliqué la parole au maître de la loi. Vous voulez dire que l'histoire que Job vous a dit dans Job chapitre 34, ça s'applique maintenant. Cette histoire-là, que la spiritualité n'est pas liée à l'âge, ni à la blancheur des cheveux. La spiritualité est liée à celui qui a le cœur de Jésus, l'esprit de Dieu en lui. Il comprend les choses de Dieu. Tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu sans l'esprit de Dieu. Alléluia. Oui, il y a trois types d'esprits. Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de l'homme et il y a l'esprit de Satan. L'homme lui-même a son esprit. Alors, beaucoup de gens vont taper, « Ah, moi, je me connais. » C'est son esprit. Alléluia. C'est son esprit. Il y a à peine un mois, on a vu un pasteur du côté du Kenya qui a poussé ses chrétiens à jeûner pour voir Jésus et ils sont morts. Une vingtaine, il les a enterrés. On l'a arrêté. Et on dit, il n'a aucun problème. Il dit non, c'est la persécution. Vous voyez? Pour lui, c'est la persécution. À côté de ce pays, il y a un pays qu'on appelle le Zimbabwe. J'ai vu un autre là-bas, lui, il dit qu'il est Jésus. Et il a les 12 apôtres. Et lui, il a sa femme. Et avec ses et toute une commune. L'esprit d'erreur. L'esprit d'erreur. Nous aussi, avant de connaître ces belles. Cette histoire est compliquée, n'est-ce pas? Vous voyez? 2 Corinthiens chapitre 3, c'est ce que je suis en train de dire, le verset 13. Il dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, le verset 14, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Regardez en Israël, chaque fois qu'il faut lire la parole, la Torah, le lecteur se couvre le visage. Alléluia. Maintenant, nous, les pentecôtistes, on vient avec ça, le tali, on se couvre, on dit non, c'est le manteau. Oui, dans un sens, mais dans un autre sens, c'est un voile. C'est un voile. Il se couvre. Il dit, jusqu'à ce jour, ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Je reprends. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Vous voyez, c'est en Christ que ce voile quitte ta vie. Il dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Un voile est jeté sur quoi? Sur le cœur, pas sur la tête. Moïse a mis sur sa tête et ils ont mis sur le cœur. Il dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est comment? Est ôté. Le voile est ôté. Verset 17 qui est très intéressant. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Alléluia. Voyez? Le verset 18 dit, nous tous qui, le visage découvert. Maintenant, parce que nos visages ont été dévoilés, découverts par la beauté et la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est quand ce voile tombe que tu peux voir la gloire de Dieu. Tant que ce voile ne tombe pas, tant que ce type d'enseignement, ce type de doctrine, ce type d'éducation que tu as eu dans ta marche ne tombe pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Il y a des gens qui ils ont une très mauvaise éducation. Et chaque fois que tu veux les redresser, ils croient qu'ils sont très intelligents. C'est un voile. Et tant qu'ils n'abandonnent pas ça, ils ne peuvent pas apprécier. Ils ne peuvent pas entrer dans quelque chose de meilleur pour eux. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. On te dit, non, la décision, c'est que tu as pris n'est pas bonne. Tu dis, non, je comprends. Je sais là où je vais. J'ai l'habitude. Laisse ça. Tu dis, non, laisse ça. Abandonne le comportement. C'est, ah, non. C'est mon frère jumeau. On est nés ensemble. OK. Ben, tu vas voir que la destruction. Mais la Bible nous dit que le jour que tu abandonnes ça, c'est quoi quand tu abandonnes l'impudicité, tu abandonnes le mensonge, tu abandonnes la fornication, tu abandonnes la méchanceté, tu vois la gloire de Dieu. Alléluia! Une nouvelle créature est possible à ce moment. Une nouvelle création est possible par Jésus. Alléluia! 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 J'étais en train de regarder mon texte alors que je n'ai pas le texte. Alléluia. Attendez. Je fonctionne avec comme ça vient dans mon esprit. Alléluia. Mais bien-aimés, c'est quoi nous devons nous lever contre tout voile, contre tout aveuglement, contre toute cécité spirituelle nous empêchant d'entrer dans le plan de Dieu. Alléluia. Vous voyez? Le Seigneur dit, si ton œil est en mauvais état, alors les ténèbres, bonjour les ténèbres, bonjour les ténèbres. Alléluia. Revenons dans Matthieu 6, 22. Alléluia. Alors, je voudrais que vous souligniez deux choses dans votre Bible. Il dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera comment? Comment? Éclairé, n'est-ce pas? Éclairé. Ça veut dire qu'il y a une lumière. Dans cette lampe, il y a une lumière. Alors, je suis tombé sur une vidéo, sur la vidéo d'un scientifique. Qui expliquait l'œil? Oh, mon Dieu. Il expliquait la composition de l'œil. Bien-aimé, c'était terrible. Il expliquait et il disait que l'œil que vous voyez là a une telle précision. Voyez aujourd'hui, il dit, vous voyez tous vos téléphones, ça, on dit, plus, on fait des caméras de plus en plus précises, de manière à ce que lorsque tu peux faire des zooms à des certaines distances. Alléluia. Et il expliquait que le zoom le plus rapide et le plus précis, c'est l'œil. Et il expliquait que lorsque ton œil a des problèmes, bien-aimé, tu n'arrives plus à bien voir. Tu n'arrives plus à bien saisir les choses. Regardez, lorsque vous allez chez un ophtalmologue, il vous fait lire des écritures, n'est-ce pas? À une certaine distance. Il met à une certaine distance, il dit lis, répète. Et c'est en fonction de la longueur, de la distance entre toi et les écritures, qu'il peut définir le type de lunettes qu'il peut te prescrire. Alléluia. Alors, plus tu approches. C'est elle, c'est comme si c'est elle. Il dit que mais ta peine est grave. Mais même à deux pas, tu ne vois pas. Non. Il y a des gens qui disent c'est qui, c'est Pierre ou bien c'est Jean? Papa, c'est Jean. Ah, vous avez vu le problème de Jacob? Vous avez vu le problème de Jacob? Il n'a pas pu discerner ses deux fils. Il n'a pas pu. À cause de quoi? La cécité. Alors, vous devez savoir qu'il y a des lieux qui rendent quelqu'un aveugle. Il y a des lieux qui rendent quelqu'un aveugle. C'est pourquoi tu ne dois pas être par n'importe où, partout. Non, il y a des lieux qui rendent ta vie aveugle. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Hum. Alors, quand tu arrives à cet endroit, ta vie devient compliquée. Ta vie devient très, très compliquée. La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 8, à partir du verset 22, Jésus va arriver dans une ville qu'on appelle Bethsaida. Alléluia. Dans cette ville à Bethsaida, qui veut dire la maison des poissons, de la multiplication. Alléluia. Il va arriver dans la ville de Bethsaida, on va venir à lui avec un aveugle. Un aveugle. Amen. Et qu'on va le prier de le toucher. On n'a pas dit prie pour lui. On a dit Seigneur, s'il te plaît, touche-le seulement. Amen. Touche cet homme seulement. Alors, lisons. La Bible dit qu'il va prendre l'aveugle par la main et il va le conduire où? Hors du village. Il ne va pas le toucher dans le village de Bethsaida. Mais il sort hors de Bethsaida pour pouvoir le guérir. Mais Jésus va faire deux tentatives. Le Seigneur Jésus, le maître de l'univers, le Dieu de la guérison, prie pour quelqu'un deux fois avant qu'il guérisse. Ça, non, ton lieu est maudit. Alléluia. Ton lieu est maudit. Amen. La Bible dit que la première fois, il va prendre la salive qu'il va mélanger avec la boue. Il va mettre sur les yeux du gars. Il va lui imposer les mains. Il va dire, qu'est-ce que tu vois? Il dit, j'aperçois les hommes comme les arbres, bien aimé. Il y a une dimension d'aveuglement dans ta vie que tu confonds les gens que tu vois. Au lieu de, quand tu vis ce genre de cécité, tes aides deviennent tes ennemis. Quelqu'un n'a pas dit amen. Alléluia. Tes aides deviennent tes ennemis. Tu vois les hommes comme les arbres. Comment un homme peut être un arbre? Ou c'est un homme ou c'est un arbre? Alléluia. Jésus dit, mais t'as pas été grave, frère. Il dit quoi? La Bible dit que Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Et Jésus va lui dire, ne retourne plus au village là. Frère, ton problème c'est là où tu es. Jésus dit, n'entre pas au village. Continue ta route. Continue ta route. Amen. Alors, si tu veux comprendre qu'est-ce qui se passe à Bethsaida, tu dois remonter dans Matthieu chapitre 11, le verset 21. Matthieu chapitre 11, 21 nous parle d'une malédiction dans la ville de Bethsaida contre pour qu'il y ait aux incrédules. L'incrédulité de la ville a fait qu'aucun miracle ne pouvait se produire dans Bethsaida. Bien-aimé. L'incrédulité de ta famille peut faire que Dieu n'intervient pas pour toi. Hein? C'est pourquoi il est important que tu pries que Dieu touche le cœur de tes frères et soeurs qu'ils croient aussi. Parce que leur incrédulité t'a fait. C'est pas moi qui dis, c'est la parole. Il dit malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaida. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, qui étaient des villes païennes, alléluia, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dis avec moi au nom de Jésus. Toute incrédulité de ma famille qui affecte ma foi, qui affecte ma progression, qui affecte ma croissance, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je m'en déconnecte, 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 je m'en déconnecte. Au nom de Jésus. Regardez dans un couple, quand la femme croit et que le mari ne croit pas, la foi de la femme est faible. Elle peut croire comme elle veut. Ça va pas. Chaque fois qu'elle va rentrer, le découragement va la prendre. Seigneur, comment tu n'arrives pas à convertir le malhonnête ici? Assois-toi bien aimé. Il y a une femme qui m'avait je dis que, ah, homme de Dieu, moi j'ai fini par croire que Dieu peut transformer tout le monde sauf mon mari. J'ai compris que mon mari a dépassé Dieu.
Sa part de rébellion est grave. Quand il rentre, il insulte sa foi, il insulte son Dieu, il la maudit.
Elle se rendait, elle me dit, je me rends même compte que c'est même la malédiction de mon mari qui marche plus dans ma vie que la bénédiction de Dieu. Vous voyez, l'atmosphère, l'environnement, les personnes avec qui tu marches peuvent affecter la qualité de ta foi et affecter la main de Dieu dans ta vie. Alléluia, alléluia. Nous sommes là, Bethsaïda. Jésus, est-ce qu'il a besoin de sortir d'une ville? Il est le possesseur de tout. Il a tout créé. Mais là, la situation dit, frère, sortons. Toi, tu dis, non, j'ai le feu. Je suis enfant de Dieu. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. On dit, sort. Tu dis, non, il ne sort pas. C'est quoi le Seigneur m'a dit quelque part dans les Écritures que nous devons sortir du milieu de ces gens-là. Sortez de leur milieu. Sortez. Parce que quand tu restes dans cet milieu-là, ça affecte ta vie. Regardez Lot. Lot n'était pas allé habiter à Sodome, mais il était allé habiter à côté de Sodome. Mais à la fin de sa vie, il s'est retrouvé dans Sodome. Sodome, il était dedans et Sodome habitait maintenant dans son cœur. Trop près de la frontière. Allez écouter le cantique là, trop près de la frontière. J'aime trop ça. Le cantique là me prête trop. Il dit, c'est l'histoire d'un gars qui avait cru. Et il croyait que sa foi pouvait le préserver. Donc, un jour, il est allé en boîte prêcher. Et c'est la boîte qui est entrée en lui. Alléluia. Il a tellement dansé que le matin, il a oublié que... Alléluia. Il a fait l'effort. Il ne faut pas aller trop. Quand tu connais tes faiblesses, c'est quoi en tant que... Tu dois connaître tes forces et tes faiblesses. Ne fais pas l'erreur de Samson qui croyait que la force physique, c'était la force spirituelle. Il s'est retrouvé dans les bras de Dalila. Il a cru que la fée-là devait rester. On a coupé ses 7 tresses. On a dit, les voilà, il se lève. Il croit qu'il donne le coup de poing. C'est comme si c'est le carton. On dit, frère, c'est fini. Hier, il donnait le coup de poing. Ça enlevait toute la toiture avec. Vous voyez? Un jour, cet énervé, il allait enlever les portails d'une ville. Le portail. Il a enlevé le portail. Alléluia. Il a raté. Il n'a pas gagné un défi. Il allait circoncile 30 personnes. Il a enlevé leurs prépuces. Il allait donner dans l'autre famille. Comme vous voulez, les prépuces. Il arrête les gars, il les tape, il est circoncis. Il enlève les prépuces. Il part donner. Il dit, voilà ce que vous m'avez demandé. Il avait une force sauvage. Mais il n'avait pas compris. C'est pourquoi la première chose qu'on va lui enlever, ce sera ses yeux. L'aveuglement. La cécité. Chaque fois que l'ennemi veut affecter la vie d'un enfant de Dieu, il attaque ses yeux. Il attaque ses yeux. Si tu n'as pas la capacité de voir spirituellement les choses qui arrivent dans ta vie. Parce que la Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir au préalable averti ses serviteurs. Les prophètes, Dieu prophétise, Dieu prophète. L'esprit de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Alors, de toute manière, Dieu prend la peine de toujours t'avertir. Mais si tu ne vois pas et que tu subis les événements, tu as les problèmes avec tes yeux. Spirituel, bien sûr. Alléluia. Est-ce que je peux avancer jusque-là? Alors, dans ma petite expérience, je me suis rendu compte que la plupart des gens qui avaient des problèmes précoces des yeux étaient des personnes qui avaient été attaquées qui avaient été attaquées au niveau de leurs yeux spirituels. Alléluia. Les gens qui ont des problèmes avec leurs yeux de manière précoce et qui portent les lunettes de manière précoce, c'est le signe que de manière, sur le plan spirituel, leur vue spirituelle a été attaquée. Pour qu'ils disaient une vue déformée. Ce soir, Dieu restaure tes yeux. Je dis, ce soir, Dieu restaure tes yeux. Je dis, ce soir, Dieu restaure tes yeux. Au nom de Jésus! Au nom de Jésus. Alors, quand je priais pour tes yeux, ne vois pas les hommes comme les arbres. Quand il va toucher, je vois là. Et voilà, couleur blanche, je vois une blanc, blanc, blanc. Non, non, ce n'est pas ça. Vois bien, frère, vois bien. Alléluia. Il y a des héros, des généraux de Dieu à qui l'ennemi a enlevé leurs yeux. Mais sur le plan physique, ils marchent. Mais ils n'ont plus des yeux, il n'y a plus rien ici. Il n'y a plus rien. Quand ils regardent, ils ne voient pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Alléluia. Ce soir, par le baume de Gala, je décrète la restauration de ta vue spirituelle. La restauration de ta vue spirituelle. La restauration de ta vue spirituelle. Au nom de Jésus. Vous voyez, quand tu es aveuglé, regardez, il y a plusieurs manières de voir. Tu peux bien voir, mais il y a aussi voir très bien. Alors, allons-y dans le livre de Jérémie. Merci Jésus. Le Seigneur est en train de m'aider. Hein? Il m'aide. Alors, Dieu va demander quelque chose à Jérémie. Jérémie chapitre 1, le verset 11. Il va dire, Jérémie, il va dire, que vois-tu, Jérémie, que vois-tu? Jérémie, c'est très important de voir. Mais c'est encore mieux de bien voir. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens voient, mais ne voient pas bien. C'est pourquoi, quand tu ne vois pas bien, tu auras une mauvaise interprétation. Est-ce que quelqu'un avec moi? Je dis, que vois-tu, Jérémie? Il dit, je répondis, je vois une branche d'amandier. Écoutez la suite, le verset 12. Le Seigneur, l'Éternel me dit, tu as bien. Il n'a pas dit, tu as vu, tu as bien vu, tu as très bien vu, tu as vu avec précision. Il n'a pas dit, il a vu une branche. Il y a des gens qui m'ont dit, non, moi je vois une branche. Alléluia. Il a vu non seulement la branche, mais il a vu la race de la plante, de la branche. Une branche d'amandier. Quelqu'un va dire non. Quelqu'un d'autre qui ne voit pas bien va dire, je vois une branche. Vous voyez? C'est différent, n'est-ce pas? C'est une branche de quoi? Alors, quand tu ne connais pas la nature de la branche, tu vas mal interpréter. Or, l'amandier a une signification spirituelle. En voyant la branche d'amandier, ça avait une certaine interprétation. Alors maintenant, il va lui poser une deuxième fois la question. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Deuxième fois. Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Regardez la précision. Du côté du septentrion, la position où le chaudron arrivait. La direction. Quelqu'un va dire, je vois une grosse marmite, je vois quelque chose comme une marmite, comme une casserole. C'est fini. C'est posé où? Ça vient de quel côté? Maintenant, écoute l'interprétation du Seigneur. Il dit, et l'Éternel me dit, c'est du septentrion, c'est du nord que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples du royaume, des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem contre ses murailles. Tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Alléluia. Vous voyez, l'amandier représentait Babylone. Bien-aimé. L'amandier représentait ce qui va rester à la fin. La partie qui va être sauvée. Alléluia. Une branche. Il n'a pas vu un arbre. Une branche. Ça veut dire que l'arbre n'existait plus. Il est resté une... Les rescapés. Les rescapés. Eh bien aimé, que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Le gars dit, voyez les hommes comme les arbres. Beaucoup de gens voient dans leur révélation, ils voient des hommes comme les arbres. Ils voient même les hommes comme les voitures. Alléluia. Amen. Alors là, je parle spécifiquement aussi, je parle maintenant un deuxième niveau pour ceux qui ont le don de révélation. Si tu vois mal, tu interprètes mal. Si tu vois mal, tu interprètes mal. C'est pourquoi quand tu vas voir les accidents en route, lorsque la police vient pour faire le constat, quelqu'un dit « j'ai vu comme ça », l'autre dit « j'ai vu comme ça », c'est en fonction de leur témoignage qu'on peut attribuer le tort à X ou à Y. Mais si tu vois mal, c'est compliqué. C'est pourquoi tu dois toujours, un des points de prière que tu dois faire, c'est « Seigneur, donne-moi la grâce de bien voir ». Pas de voir, de bien voir. De bien voir. De bien voir. Clairement. Non seulement, parce que bien voir te donne aussi la compréhension. Ça devient simple la compréhension. Par exemple, tu as bien vu. Si je vois sur le mur, c'est écrit « Maman va au marché ». Si je vois mal et que je vois seulement « Maman, marché, va », ça n'a aucun sens, non? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vois, ah, je vois quelque chose marcher, je vois « va », je vois « marché, va », ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais quand je vois « Maman va au marché », je comprends ce que ça veut dire. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas besoin de, que quelqu'un vienne m'aider à comprendre. J'ai compris. Amen. J'ai compris. Alors, vous voyez que c'est une forme d'embargo, n'est-ce pas? Il y a des lieux qui sont la cause de l'embargo. Il y a des hommes qui sont de la cause de la cécité spirituelle. Lorsque nous allons dans le livre de Genèse chapitre 12, nous voyons Dieu dire à Abraham, va dans le pays que je vais te montrer. Amen. Il prend son fils, Lot, il va avec. Il va avec Lot. Lot, ça veut dire voile. Alléluia. Voile. Il prend Lot, Lot qui était son neveu, parce que son père est mort prématurément. Il a donc adopté. Bien-aimé, il y a des gens que tu vas adopter, ils vont hériter ce que tu as en toi. Attention, n'hérite pas, n'adapte pas tout le monde. Lot est venu, il n'avait rien. Mais lorsqu'on va dans le chapitre 13, on découvre que Lot avait autant de brebis comme Abraham. Au point où ses serviteurs combattaient les serviteurs d'Abraham. Et Abraham va dire, écoute frère, maintenant, comme ton niveau a grandi, maintenant tu es mon frère, tu es plus mon fils. Est-ce que quelqu'un voit ça? Il y a les gens, quand ils sont faibles, ils t'appellent papa, hein? Mais quand ils deviennent gris, ils t'appellent, tu es mon frère, non? C'est comment? Alléluia. C'est toi qui l'as payé l'école, il est devenu grand. Il dit, ah, tu donc, tu n'es pas mon grand, tu n'es pas mon cousin. Mais hier, c'était pas cousin, c'était papa. Est-ce que quelqu'un a vécu ça? Lève la main si je dis vrai. Alléluia. Et allons-y, Genèse chapitre 13. J'aime la parole de Dieu. Elle est forte. Genèse chapitre 13. Écoutez, allons-y au verset 13. Alléluia. Rentrons à partir du verset 7. Amen. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot, et les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans tout le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes quoi? Nous sommes quoi? Frères! Est-ce qu'il était frère? Ce n'était pas le père et son fils? Alléluia! Parce que Lot était arrivé à un niveau, il se comparait maintenant aussi à Abraham. Alors, tout le pays n'est-il pas devant toi, c'est pas toi, donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux. C'est toujours les yeux qui sont interpellés. C'est à partir de ses yeux qu'il a pu apprécier la direction où il allait. Alors, si tu vois mal, tu vas confondre Sodome et Gomorre au jardin de l'Éternel. Vous voyez, il y a des gens qui font le mauvais choix. Ils choisissent le lion croyant que c'est l'agneau. Quand il arrive, il sort l'écran, il dit, hey, je ne savais pas que tu étais comme ça. Alléluia. Tu choisis Francis Ngannou alors que tu crois que c'est l'agneau. Dedans, il croit, ça devient comme le ring de boxe. Amen. Toup, 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 toup. Il s'entraîne sur toi. Tous les jours, tu sors, tu as les yeux des Chinois et des Japonais. Alléluia. Chaque jour, quand on voit ton nom, on dit, mais tu es Chinois. Le lendemain, on dit, tu es Japonais. Alléluia. Amen. Lot était un problème. Lot était un voile. Remarquez qu'avant que chapitre 12, la dernière fois Dieu parle à Abraham, c'est dans le chapitre 12. Maintenant, jusqu'à ce qu'Abraham se sépare de Lot, Dieu ne lui parla plus. Mais observez maintenant. Observez le verset 14. Amen. Après la séparation. Observez le verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après. L'Éternel dit à Abraham, après. Après. Pas avant. Après que Lot se fût séparé de lui. Alléluia. Dieu lui parle après qu'Abraham, Lot n'est plus là. Il y a des gens que s'ils ne te quittent pas, Dieu ne te parle plus. Amen. Il y a des gens que tant qu'ils sont à côté de toi, tant qu'ils sont avec toi, tant qu'ils marchent avec toi, tant que tu les associes à tes choses, Dieu se tait. Et du coup, ça te limite. Du coup, ça te limite. Du coup, ça crée une forme d'embargo autour de ta vie. Alléluia. Remarquez que une autre scène similaire va se produire dans le livre, dans la vie d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, le verset 1. On parle de la mort du roi Ozias. La Bible dit que après la mort du roi Ozias, Ésaïe va voir le Seigneur assis sur le trône. Mais Ésaïe ne prophétisait-il pas? Chapitre 1, il a prophétisé. Chapitre 2, il a prophétisé. 3, 4, 5, il a prophétisé. Mais jusque-là, il n'avait pas encore vu le Seigneur. Bien-aimé, tu peux arriver à un certain niveau de la grâce de Dieu. Mais il y a un autre niveau où tu dois te séparer d'un certain nombre de personnes. La même chose va se produire. Genèse chapitre 22. Abraham va être amené à aller sur la montagne offrir son fils en holocauste. Il va prendre ses deux serviteurs et il va prendre la route. La Bible dit le troisième jour, lorsqu'il va regarder, il va voir la montagne de loin. Il va dire aux serviteurs, restez ici. Parce qu'il y a un certain niveau où tout le monde ne peut pas te suivre. Si tu veux plus d'intimité avec Dieu, tu as besoin de te séparer d'un certain nombre de personnes. Alléluia. Alléluia. Tu dois te séparer. C'est quoi le Seigneur va dire dans les évangiles, quoi? Que tu ne peux pas mettre la main à la charrue, tu regardes encore derrière. Tu n'es pas digne. Si tu n'es pas prêt à régner père, mère, frère, soeur, mari, femme, enfant, pour l'intérêt du royaume, tu n'es pas prêt. Ça ne te concerne pas. Vous voyez? Ça veut dire que Jésus vient dire ça d'une autre manière. Que tu ne peux pas entrer ici si tu veux prendre tout le monde avec toi. Ça ne marche pas. Tu dois te séparer. Tu dois te séparer. Tu dois te séparer. Alléluia. Là, il voit beaucoup de gens, à cause de la fausse compassion, ils meurent prématurément. Regardez le cas de Jonathan. Jonathan connaissait la volonté de Dieu. Lui-même va aller dire à David, toi, David, c'est toi qui seras le roi. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Il va lui remettre son épée, sa ceinture, sa cuirasse. Pour lui témoigner son allégeance. Que David, je suis ton serviteur. Fais de moi ce que tu veux. Et David lui promet à ce moment-là, il traite d'alliance, que quand je vais m'asseoir, roi, tu seras mon second. Mais la fausse compassion. Ouais, papa.
Ouais, mon père, je ne peux pas laisser mon père comme ça. Je vais quand même accompagner mon père à la guerre. Je vais quand même accompagner. Il savait que Dieu avait. Il a dit à moi, Dieu a rejeté mon père. Dieu a rejeté mon père. Et c'est toi le prochain roi. Mais la compassion. Il est allé avec son père. Et ceux qui. La flèche qui était destinée pour son père l'a aussi tué. Est-ce que quelqu'un avec moi? Attention. C'est pourquoi vous devez faire attention à vos émotions. Vous devez faire attention à vos émotions. C'est un autre piège qui aveugle beaucoup de gens. Non, je le connais. Mon cœur ne peut pas me tromper. C'est faux. Ton cœur va te tromper. Ton cœur te trompe même déjà. Alléluia. Ne te fie pas à ton cœur. Fie-toi à la parole de Dieu. Dieu est plus grand que notre cœur. Quand ton cœur te condamne, il n'y a que Dieu pour t'en délivrer. Amen. Quand le cœur de Judas l'a condamné, il n'y avait qu'une seule issue, le suicide. Le suicide. Le suicide. Les émotions. Les émotions. Les pensées de ton cœur. Tu gardes des pensées. Vous voyez, il y a ce premier niveau, les émotions. Maintenant, il y a un deuxième niveau qui aveugle les expériences passées, les événements passés, les chocs émotionnels passés. Oh, parce que tu as beaucoup vécu, beaucoup de déceptions dans ta vie. Tu n'arrives pas à percevoir le bon candidat qui arrive devant toi. Tu es aveuglé. Oh, il va encore faire comme les autres. Mais c'est un humain qui va t'épouser, ce n'est pas un extraterrestre. Alléluia. Tu n'es pas parfait, donc lui-même n'est pas parfait. Alors, si tu ne guéris pas dans ton cœur, tu ne peux pas avoir le discernement. Et du coup, le diable va te donner de nouveaux principes. Le diable va te dire non. Maintenant, pour te mettre à l'abri, hein, dis-toi que si un homme doit venir à côté de toi, il doit être riche, il doit être beau. Des critères que toi-même, tu ne remplis pas. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Des critères que toi-même tu ne peux pas remplir. Un jour j'ai dit à un médecin que j'ai pris une moto cycliste, j'ai donné ma destination, une destination qui était à 2 minutes, il me dit 500. J'ai dit attends, attention, fais attention, parce que si on te taxe le même prix, est-ce que tu es capable de payer? Il dit non, mais c'est vous qui me prenez. J'ai dit toi-même, mets-toi à ma place. Alors, vous établissez des principes que vous-même, vous ne pouvez pas gérer. Amen. Ta moto ne va pas être éternelle. Ça va tomber en panne demain. Tu vas marcher aussi. Tu vas chercher une moto. Et quand on va te dire ça, tu vas dire voleur. Vous êtes les escrocs ici dehors. Alléluia. Mais tu vas oublier que yeah, tu l'as fait à quelqu'un d'autre. Alors, la même chose quand tes émotions ont été affectées, quand tu as fait des accidents sur le chemin de ta marche, les accidents émotionnels, tu as choqué sur les bus, tu as choqué sur les taxis, tu as choqué sur les motos. Alléluia. Quand la bonne personne arrive, même quand une bonne personne arrive, même quand une bonne personne arrive, tu n'y crois pas. Mais non, c'est comme ça que l'autre a commencé. C'est comme ça que Jean-Marie a commencé. Non, vous allez. Et vous allez entendre les discours de cette telle personne, soit les hommes, soit les femmes. L'homme va dire ah, les femmes, elles sont toutes les mêmes. L'autre va dire ah, les hommes, ils sont tous les mêmes. Parce que quand il dit les femmes, elles ne se comptent pas dedans. Quand lui, l'autre dit les hommes, ils ne se comptent pas dedans. Excepté lui, il est parfait. Problème. Je ne vais pas avancer. C'est le thème de Papa Joseph. Hein. Papa Joseph, tu es béni. Alléluia. C'est pourquoi à ce niveau-là, il faut prier pour une guérison intérieure. Il faut guérir. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Quand tu passes la guérison, alors là, les choses peuvent devenir nouveaux. Les choses peuvent devenir très nouveaux pour toi. Sinon, tu vas garder les anciens réflexes. Tu vas garder les anciennes manières de voir les choses. Tu vas garder les anciens mécanismes. Et tu vas rester dans la tristesse toute ta vie. Regardez,
Jean chapitre 5. Cet homme à la piscine de Bethesda avait ce problème émotionnel. Il avait connu le rejet. C'est pourquoi quand Jésus vient lui poser une question, « Veux-tu être guéri ?» La réponse normale, d'une personne équilibrée, c'est « Oui !» Alléluia. Mais sa réponse nous montre clairement que cet homme avait un problème émotionnel. Il dit, « Seigneur, il n'y a personne pour me prendre la main et me jeter dans l'eau. » Il n'y a personne. Vous voyez ? Il était à l'opposé de ce que Jésus lui posait comme question. Est-ce que Jésus lui avait posé la question, pourquoi il n'y a personne? Parfois quand tu es là, il n'y a personne pour t'aider et t'amener. Il aurait bien répondu, n'est-ce pas? Et Jésus dit, veux-tu? Alors je te pose la question, veux-tu être guéri? Ta réponse est quoi? Veux-tu être riche? Veux-tu prospérer? Veux-tu voyager? C'est simple, non? Maintenant, si elle dit, veux-tu voyager? Tu dis, ah, papa, les gens n'aiment même pas ici dehors. Les gens sont jaloux de moi. Tu as un problème émotionnel. Alléluia! Et c'est devenu un blocage. Parce que pendant 38 ans, il était sur place. Il y a des paralysies, des handicaps que les gens portent à cause de leur aveuglement. Je prie pour toi. Que le Seigneur te sorte de ce piège. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il restaure ton cœur. Qu'il restaure tes émotions. Qu'il restaure ta volonté. Qu'il restaure ton intelligence. Qu'il restaure tes émotions. Au nom de Jésus. Qu'il te donne la capacité de voir clairement. De bien voir. Au nom de Jésus. Alléluia. Assois-toi, bien-aimé. Nous terminons bientôt. Alors, il y a des gens, parce qu'ils sont aveugles, ils passent à côté de leur guérison, de leur temps de visitation. De leur temps de visitation. À cause de l'aveuglement de Jérusalem, il est passé à côté de son temps de visitation. Que Dieu t'aide afin de ne pas passer à côté de ta saison de visitation. Que Dieu t'aide afin de ne pas passer à côté de ta saison de guérison. À cause de ne pas passer à côté de ta saison du rire, de la joie, de la paix au nom de Jésus. Bien-aimé, sachez que les expériences par lesquelles nous passons peuvent formater notre vision. Alléluia. Les expériences par lesquelles nous passons peuvent donner une autre forme à ce que nous voyons. Et tu as l'impression que c'est la vérité, alors que ce n'est pas la vérité. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es aveugle, quand tu subis ce genre d'aveuglement, même ta foi prend un coup. Même ta foi prend un coup. C'est pourquoi je dis toujours, ne vous fiez pas à ce que vos yeux voient, fiez-vous à ce que Dieu dit. C'est le seul moyen de s'en sortir sur la terre. Ne vous fiez pas, même pas à vous-même. Papa Mamadou Karambiri disait le sentiment. Amen. Tout ce qui fait l'objet du sentiment est un mensonge. Il dit, fiez-vous à ce que Dieu dit. Fiez-vous à la parole de Dieu. Ça ne changera pas, mais ta vision changera. Regardez, quand tu vois une jeune fille, amen, tu vas vers une jeune fille, tu l'épouses. Elle est nyanga, elle est belle, elle est bien comme toi tu aimes. Donne-lui quelques mois qu'elle va manger le sanga, le bongo chobi, elle va manger le couscous, les pistolets vont sortir, les carabines vont sortir, tout va bouleverser, elle va avoir 4 ventres, elle va avoir 6 mentons, et là tu vas dire, ta vision va changer, non? Ok, tu vas dire, ok, Jacqueline, est-ce que c'était comme ça que tu étais? Alléluia. Les choses ont changé. Amen.
Les choses ont changé. Hier, elle était comme ça. Je vous disais une fois, je suis allé chez Vanessa, j'ai vu sa photo jeune. Si elle vous amène ici, vous allez tous chuter à terre. La photo, là, il lui dit que cache ça. Cache ça. Que personne ne voit plus ça. C'est une photo qui peut te décourager dans la vie. Alléluia. Elle peut te stresser. Elle-même, ça peut la stresser. Alléluia. Oui, mais quand tu vois ça, tu regrettes. Qui m'a envoyé dans le couscous, qui m'a envoyé dans la nourriture, qui m'a envoyé dans le stress. Parce que le stress te fait prendre le poids. Ah oui. Ah oui. Beaucoup de gens se réfugient pour régler leur stress dans la nourriture. Ils grignotent seulement. Ils grignotent. Le poids, tu marches. Tu ne fais aucun exercice. Tu es sur place. Les pieds deviennent gros. Maintenant, tu commences à avoir rhumatisme, douleur du pied, douleur. Marcher un peu jusque là-bas. On ne prend pas la moto. Alléluia. Il y a des gens, quand ils sont célibataires, ils marchent. Mais tu la vois là-bas. Là. Tu comprends pourquoi elle a le corps là. Mais quand elle se marie, voiture, pardon, je ne veux pas trop marcher. Je ne veux pas trop marcher. Faut marcher, ma chérie. Alléluia. Faut marcher. C'est bon pour la santé. Ce n'est pas une. Amen. Il faut marcher. Même le lendemain de ton mariage, marche, marche, marche. Ça va te faire du bien. La même semaine, marche. Marche. Même semaine, oh, tu veux qu'on te porte, on te doudou, on te chouchoute. Et du coup, le poids vient. Tu ne t'en sors plus. Alléluia. Mes bien-aimés, l'aveuglement doit tomber dans ta vie au nom de Jésus. Alors, je prie pour vos yeux. Alléluia. Tous ceux qui ont les problèmes des yeux directement, là, levez la main que je vois. Tous ceux qui ont porté ou portent les lunettes en ce moment, qui ont porté ou portent maintenant, si tu avais porté et que tu ne portes plus, lève la main. Si tu portes maintenant, lève la main. Si tu n'as jamais porté, ne lève pas la main. Alléluia. Voilà, avancez ici. Voilà. Rapidement, ah, pas beaucoup de temps. Avancez comme ça, les amis. Faites une ligne. Voilà. Vous balancez le bébé là derrière. Oh, voilà. Poussez un peu derrière. Poussez un peu à l'arrière. Encore, encore. Voilà. Vanessa, suis le mouvement. Voilà. Amen. Voici le premier prototype. Que nous avancez un peu comme ça. Voilà. Voilà. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prier pour vous. Afin que Dieu restaure votre vue physiquement et qu'il restaure également spirituellement. Vous ne voyez plus comme les arbres. Ou bien à l'envers. Amen. Vous voyez normalement pour la gloire du Seigneur. Amen. Ici, c'est la maison du Seigneur. Je vous ai sorti de vos maisons qui pouvaient affecter vos yeux. Alléluia. Donc, je vais prier sur cette terre de prière, sur cette montagne de prière.